Bonjour Mélissa, comment ça va?
Salut Sandrine, ça va et toi?
Oh ouais, super, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas parlé.
Oui.
J'avais hâte,
Ouais.
donc nous voilà de retour.
C'est ça.
Bonjour.
J'allais te poser la question. Avec quel épisode on revient aujourd'hui? Quel est le titre de cet épisode?
Alors, le mot à la mode qui s'appelle la décarbonation. Et vous avez vu, j'ai réussi à le dire du premier coup.
Oui.
Et non, mais ce n'est pas un mot si compliqué que ça. Et on a avec nous une experte en décarbonation, qui est Juliette. Et
Juliette Poupard.
Juliette Poupard. Oui, Juliette
C'est
Poupard.
moi. Oui.
Ben Juliette, tu vas nous dire qui tu es.
Donc, je suis l'experte en décarbonation.
Bien vu.
Non, plus sérieusement, bah, effectivement, je travaille pour le groupe PSV et on est affilié à l'ADEME et à BPI France, entre autres, et on accompagne un certain nombre d'entreprises dans ce beau mot qu'est la décarbonation.
Alors, déjà, est-ce que les acronymes sont là? Tu peux nous dire ce qu'est l'ADEME? Qui est l'ADEME?
Qu'est-ce que l'ADEME? Donc l'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique. C'est une agence qui a en charge un certain nombre de programmes et des fonds publics et qui accompagne un certain nombre de projets de transformation autour de la transition écologique, forcément, dont la décarbonation fait partie. Mais c'est vrai que l'ADEME ne travaille pas que sur ça, ils vont aussi travailler sur l'eau, la biodiversité, le recyclage. Voilà.
Moi, je côtoie régulièrement Juliette et quand je l'entends parler avec passion de son travail sur l'accompagnement des entreprises sur la décarbonation, je l'écoute avec attention. Alors, pour tout vous dire, je ne comprends pas tout. Et c'est pour ça qu'avec Mélissa, ça faisait un moment qu'on avait envie de partager et d'échanger avec toi sur le sujet. Et comme tu as un agenda bien chargé, mais là c'était hier et là on est ensemble. Donc la décarbonation, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors Mélissa, toi tu savais ce que ça voulait dire la décarbonation?
Je sais pas trop ce qu'englobe ce mot-là, effectivement, mais quand j'entends décarbonation, j'imagine consommer, vivre de façon à rejeter le moins de CO2 possible. Voilà.
Oui, c'est tout à fait ça. On va dire que sur l'objectif, c'est ça. Après, la grosse question, c'est comment on le fait? Je pense que c'est la question qui implique tout le monde aujourd'hui, hein, c'est qu'on a l'objectif en tête, on ne sait pas forcément comment y aller. Et du coup, moi, ça me fait, j'ai envie de te poser une question, Sandrine, qu'est-ce que tu comprends pas ou qu'est-ce qui te semble pas clair dans ce que je raconte? Comme ça, on peut partir de là pour essayer de clarifier le
Non,
sujet.
je trouve que c'est beaucoup, c'est très théorique et on emploie beaucoup de termes qui me semblent, moi, si demain j'étais à la tête d'une entreprise de taille moyenne, dans l'industrie ou pas, et de dire, mais par où je commence, quoi. Et même sur ma petite expérience précédente, en fin de compte, une fois qu'on met les mains un peu dans le cambouis, on voit que c'est beaucoup de bon sens. Mais entre la façon dont on va y aller et la pratique, je pense qu'il y a vraiment effectivement besoin de démocratiser un peu le sujet. Et du coup, comme la décarbonation, c'est mettre en place quelque chose pour réduire ses émissions de CO2. Ça, j'avais compris. Ah, bravo. On a un objectif, donc décarboner, mais il y a une réglementation. Comment on a une
Ouais, j'allais
deadline?
demander s'il y avait une date limite ou pas, ouais. Et à
Ouais,
qui
à
ça
partir de
s'adresse?
2030, on est tous à moitié morts et 2050, c'est
C'est
fini.
les
C'est
moustiques.
ça, c'est les fameux moustiques du
Voilà.
GIEC. C'est ça la deadline.
Qu'est-ce
Mais
que
donc c'est
c'est
vite,
demain.
c'est demain.
Non, mais le GIEC, en fait, fait des
Ah
rapports annuels.
oui.
Et en fait, c'est eux qui ont vraiment, en tout cas, arrête-moi si je me trompe, mais c'est eux qui sont vraiment à l'origine des alertes depuis un très, très grand nombre d'années. Je crois qu'ils ont déjà commencé dans les années 80 et tout, hein.
Tout à fait.
Et en fait, leurs rapports sont malgré tout jamais pris au sérieux. Très
En
peu,
tout
en
cas,
tout
jamais
cas,
assez pour
jusqu'à,
eux. Ouais.
voilà, jamais assez pour eux. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même un plus grand réveil des consciences. On le voit dans tout ce qu'on consomme. Maintenant, c'est écrit, même la facture de téléphone. Ça a émis, vous avez émis tant de CO2. Quand on achète une voiture, c'est écrit le CO2 par kilomètre, etc. Il y a plus d'intéressement sur ce sujet-là. Et donc, en fait, ils expliquent, ce sont des scientifiques qui expliquent, si on continue comme ça, ce que ça va donner en fait en termes
de réchauffement climatique
et de réalité sur les populations.
Si on reprend ta première question, la décarbonation, tu as dit le côté, oui, première chose que tu as dit, Sandrine, et c'est vrai, c'est le côté un peu vocabulaire théorique, un peu les gros mots de la décarbonation. Je suis d'accord qu'il faut démystifier ça. C'est comme dans tout métier, tu as un peu ce jargon d'entrer dans le métier, comme les informaticiens, comme les médecins, qui est une façon de dire, bon, bah voilà, nous, on fait un truc sérieux, il n'y a que nous qui savons comment ça fonctionne, et on met plein de mots un peu scientifiques par-dessus tout ça pour habiller. Bon, bah, dans la décarbonation, on n'échappe pas à cette règle, on a notre jargon professionnel, en fait. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut démystifier ça, et puis essayer de rendre ça terrain et concret pour les acteurs économiques, parce que eux, c'est ça qui va les intéresser. Tu as raison aussi, Mélissa, que derrière tout ça, il y a cette notion du réchauffement climatique. En fait, le CO2 est directement corrélé à l'augmentation des températures. Mmh. Et donc, c'est vrai qu'il faut qu'on réduise les émissions de CO2 dans l'atmosphère pour essayer de limiter le réchauffement climatique. Même si on sait déjà qu'on n'arrivera pas à l'objectif des 1,5 degrés. Par contre, entre 3, 4 ou 5 degrés, il y a une sacrée différence. Donc, on a cet objectif de climat. Mais j'ai envie de dire, et c'est une partie des entreprises avec lesquelles je travaille, au-delà de ça, on est militant climatique ou pas, on croit à l'écologie ou pas. Il y a tout un tas d'autres enjeux derrière la décarbonation qui sont des enjeux, pour moi, véritablement liés à ce qu'est une entreprise aujourd'hui, qui sont des enjeux de souveraineté sur les matières premières et sur l'énergie, et des enjeux aussi de performance marketing. Et au final, moi, c'est ça qui m'intéresse, et c'est ça qui intéresse les dirigeants, finalement, dans le pourquoi du comment on rend le truc concret, au final. Une entreprise, ça reste une entreprise, et elle a pour mission de produire de la valeur et de la produire de la façon la plus efficace possible. Donc derrière ce gros mot de décarbonation, moi, quand j'accompagne les entreprises, ce qui m'intéresse, c'est qu'on revienne vraiment sur le terrain et qu'on travaille des axes très concrets de comment on va décarboner, mais avec deux idées majeures en tête. C'est comment je décarbone en faisant de la performance opérationnelle, ce qui est quand même le nerf de la guerre pour une entreprise. Mmh. Comment j'ai des processus qui sont les plus simples possibles et les plus efficients. Et de deux, comment je décarbone en étant le plus stratégique possible. Donc, en ayant des forces commerciales, de l'indépendance, enfin, les classiques de la stratégie d'entreprise.
Ça me parle un peu plus.
Oui, mais moi, j'ai une question, justement. Je lève le doigt. Alors, effectivement, c'est, tu expliques comment améliorer, on va dire, son fonctionnement en améliorant sa production et donc son taux de carbone. Et par rapport à... Donc, tu parles de production en tant que telle, mais tout ce qui est lié au digital, est-ce que vous avez déjà une réponse ou pas? Parce que ça, c'est extrêmement pollueur.
Alors, oui et non. C'est-à-dire que si tu regardes dans le bilan carbone de la France, le digital, c'est 4% des émissions, là où le transport, c'est 30%, l'industrie, 20%.
Oui, mais est-ce que c'est pas 4% parce que les serveurs sont ailleurs et pas chez nous?
Non, c'est 4% au global. C'est-à-dire que 4%, quand on regarde qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les facteurs d'émission, qui sont les petits coefficients multiplicateurs pour calculer le carbone, on prend tout, on ne s'arrête pas à un territoire géographique, on regarde tout, en fait. Donc, le digital, aujourd'hui, l'empreinte va augmenter, et c'est un sujet, tu as raison, mais c'est 4%, là où, encore une fois, les transports, c'est 30%, l'industrie, 20%, l'agriculture, 20%, le bâtiment, 20%. Okay. Donc, les grosses masses sont sur ces sujets-là, en fait. Et donc, typiquement, si je peux te donner, on peut donner un exemple tout bête. Alors, première chose, ce qui est intéressant quand on arrive dans les boîtes, c'est qu'on se met à compter des choses que jusqu'à présent, les gens ne comptaient pas. Et c'est important. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que dès qu'on compte quelque chose, on le rend visible. Ouais. Et nous, on va commencer à compter du carbone. Alors, ça peut être surprenant pour nos clients parce que ce n'est pas de la vraie compta. Des fois, on fait des estimations. Mais on commence à leur demander des choses qu'ils ne faisaient pas jusqu'à présent. Et l'exemple que je trouve le plus typique, c'est qu'on demande... On leur demande dans l'industrie notamment de compter la matière première non plus en euros, mais en poids. Et on calcule les indicateurs sur le taux de matière qu'on va engager pour le taux de matière qui va sortir. Et on s'aperçoit que c'est quelque chose de totalement nouveau dans la tête des industriels de se dire la matière est une denrée un peu précieuse, je ne peux pas la gaspiller comme ça. Et cet indicateur du taux de consommation de matière, qui est aussi quelque chose de très carboné, qui va jouer sur l'impact carbone, puisque moins j'engage de la matière, moins je consomme de carbone. C'est un peu la discussion qu'on avait tout à l'heure sur les vêtements. Moins je produis des vêtements qui vont être démarqués dans des outlets, moins je consomme du carbone, en fait. Bah, c'est pareil pour l'acier, C'est pareil pour tout. Et donc, ça, c'est intéressant pour le carbone, certes, mais c'est intéressant aussi ce que je disais d'un point de vue économique, parce que la matière, ça coûte cher et ça a tendance à coûter de plus en plus cher. Et c'est intéressant aussi d'un point de vue d'autonomie stratégique, parce que la matière, on n'est pas forcément producteur. Donc, on baisse notre niveau de dépendance à des matières qui viennent pas de chez nous. Typiquement, sur les métaux, en post-Covid, il y a eu un petit mouvement de relocalisation. Cette année, 80% de la production d'acier est repartie en Chine, en fait. Donc, mes clients qui transforment de l'acier en France, ils sont dépendants de ça. Donc, ce n'est pas neutre, en fait. Donc, régulièrement, j'ai ces discussions avec les clients où on dit en toute franchise, OK, on décarbone pour le GIEC, parce que le GIEC nous dit qu'il faut décarboner pour l'avenir de la planète, mais on décarbone aussi pour l'avenir de nos industries et l'autonomie et l'indépendance stratégique. Et donc, au passage, ben, j'ai quelques exemples de clients en tête où, en commençant à compter la matière, on s'est rendu compte qu'il y avait un taux de perte qui était largement supérieur à ce qu'ils pensaient. Derrière, c'est un équivalent temps plein en plus.
Donc,
Voilà,
tu améliores
c'est.
la rentabilité également.
Voilà, exactement. De toute façon, si on veut faire de la décarbonation de l'entreprise, encore une fois, il faut travailler sur les leviers de l'entreprise, qui sont l'augmentation de la rentabilité et de la performance opérationnelle. Voilà, la matière, c'est un exemple très concret, en fait, hein, qu'on peut appliquer encore une fois aux vêtements, à l'acier, au plastique, à plein de choses. L'autre exemple sur la décarbonation et les processus opérationnels que j'aime bien, c'est l'énergie. Alors, l'énergie, souvent dans le bilan carbone, c'est pas forcément la plus grosse masse, sauf sur les industries qui sont très très utilisatrices d'énergie. Par contre, on a tous vécu la crise de l'énergie et on sait que c'est aussi une denrée essentielle en fait. Sans énergie, on produit rien. Donc le fait d'accompagner les entreprises dans le simple fait d'avoir une petite partie en autoproduction, en panneaux photovoltaïques ou autres, et ben, là on joue sur la performance économique. Il y a du retour sur investissement en termes de dépenses et en plus, on travaille sur la capacité à être indépendant stratégiquement. Donc voilà, c'est pour ça que bah, derrière décarbonation, derrière ce mot-là, moi ce que je pense, c'est que c'est un processus plus transverse où on essaye de bouger l'entreprise pour lui donner plus d'assises dans ce monde dans lequel on va, où on anticipe qu'un certain nombre de ressources vont être un petit peu plus contraintes que ce dont on avait l'habitude jusqu'à présent.
Alors, moi, il y a quelque chose qui me plaît bien dans ce que tu dis, c'est de forcément, on a des PME et des TPE où les ressources sont plutôt limitées et on travaille toujours un peu dans l'urgence, et que le fait d'intégrer la décarbonation ou de rentrer dans le processus de décarbonation, ça permet aussi de faire une photo à l'instant T de la façon dont on fonctionne. Et donc, ça. Je trouve ça plutôt intéressant, mais je m'en doutais un peu quand même. Par contre, moi, j'ai une question, alors à Mélissa ou à Juliette, mais est-ce que tu intègres la décarbonation dans la responsabilité, la politique RSE de l'entreprise? Parce que ça fait partie aussi,
Alors,
certainement, du E de RSE.
oui, ce que vous disiez en intro, c'était aussi un peu ces questions de loi. Quel est l'environnement qui est en train de se dessiner? C'est ce gros mot-là qui s'appelle CSRD, cet acronyme, qui c'est la façon dont va imposer un certain nombre d'entreprises au niveau européen de faire du reporting extra-financier, c'est-à-dire de reporter sur des. Reporter, c'est un anglicisme, mais bon, de faire
Reporting.
du reporting, je cherche un mot français, bon, c'est raté, mais de comment on va mettre en place des indicateurs de la performance économique de l'entreprise qui ne soit pas que financière, mais qui soit aussi sociale et environnementale. Et dans la CSRD, on a trois grands chapeaux. On a un volet RH, qui est le volet classique RH, que les entreprises ont déjà l'habitude de travailler, le taux d'absentéisme, le turnover, etc. On a le volet gouvernance, comment est organisée la gouvernance de l'entreprise. Il y a des femmes, est-ce qu'il y a de la corruption, etc. Et puis il y a le volet indicateur climat, dans lequel on a le carbone, mais pas que, on a aussi l'eau, la biodiversité, etc. Le carbone étant quand même ce qui aujourd'hui est le plus structuré comme indicateur et le plus facile, entre guillemets, à mesurer parce qu'on commence à avoir des référents et des standards. Mais oui, moi j'intègre ça, tel le paysage qui est en train de se dessiner, c'est de dire à l'entreprise. Vous allez devoir intégrer les enjeux sociaux et environnementaux dans votre gouvernance au travers d'une espèce de norme qui va s'appeler la CSRD, qui va vous donner des grandes façons de structurer ce reporting et ces indicateurs, et qui ça en mêle donc climat, social et gouvernance.
Donc, ce CSRD,
D,
j'ai bien dit?
Corporate Sustainable Reporting Directive, si je me
Bon,
trompe
je
pas,
vais
voilà.
rester sur CSRD. Donc, tu dis que ce sont des normes. Donc, qui dit norme, dit réglementation, dit obligation.
Oui.
Donc, c'est une obligation.
Alors, c'est une obligation pour, à partir de deux, c'est déjà une obligation pour les grosses entreprises de plus de 250 salariés, et il y a un autre critère de résultat et de bilan sur lequel je ne m'étendrai pas, mais pour les grosses boîtes, c'est déjà obligatoire là. Comme toutes ces analyses, ça implique qu'on travaille avec notre chaîne de valeur sur les indicateurs. Ça impacte par défaut les sous-traitants, et ça, je le vois déjà arriver chez un certain nombre de clients. Et donc, du coup, les PME, il va y avoir ce qu'on appelle une norme volontaire, enfin, pour les PME volontaires, une norme un peu allégée, qui donne en fait, et alors c'est une norme plus ou moins, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un panel d'indicateurs. En gros, on a des gros chapeaux avec tout un tas d'indicateurs par thématique dans lesquels on peut aller piocher, et à l'entreprise de faire le travail de trouver les indicateurs qui la concernent et de les mettre en place et de les suivre dans son activité, en fait.
Et donc, Juliette, c'est à ce moment-là que toi, tu interviens dans l'accompagnement. Comment, voilà, demain, j'ai une entreprise de 50 salariés, je produis une partie de mon activité, je fais du négoce sur une autre partie de mon activité. Je veux être volontaire, parce que c'est toujours bien de prendre le premier wagon. Mais comment je m'y prends? Je télécharge un fichier?
Alors, en réalité, ça se fait rarement comme ça. C'est rarement la PME qui dit je veux faire de. Peut-être ça viendra dans 2-3 ans, mais là, au niveau du marché, c'est pas la PME qui dit ah, je veux être volontaire sur la CSRD, youpi, ça m'éclate. C'est rarement ça. Souvent, c'est plutôt soit des impératifs de coût, souvent, soit c'est parce que j'ai mon client, justement, gros donneur d'ordre, qui se met dans la démarche et donc il faut bien que je suive. Soit c'est des secteurs qui ont besoin de bouger tout de suite, parce que je disais, il y a aussi ce côté marketing stratégique. Bah, typiquement, le plastique est un secteur qui s'est énormément transformé parce qu'il a été tellement attaqué qu'il s'est vraiment mis en ordre de marche pour la transition avec plein d'innovations. Donc, ça, c'est souvent comme ça que et aussi, j'ai quelques dirigeants, souvent c'est sur les débuts de promo, de programme. On a aussi des dirigeants très embarqués, très convaincus. Mais voilà, il y a, on va dire, un mix de raisons qui poussent le dirigeant à aller dans un programme de décarbonation, qui vont de la conviction à l'avantage stratégique, en passant par le souhait de booster la rentabilité. Bon, souvent, c'est un mix des trois, et c'est très bien. Justement, c'est là où on aura le maximum de levier, en fait. Et donc, on démarre comme toute mission de conseil. D'abord, on fait un diagnostic, donc soit un diagnostic d'organisation, soit un diagnostic, un bilan carbone où on mesure, soit un mélange des deux. Et moi, je raisonne comme on raisonne tout consultant. On va voir où on est l'entreprise sur son niveau de maturité, un peu organisationnel. Et en fonction de ça, on sait comment on va pouvoir aborder le sujet. Soit l'entreprise est hyper mature, elle a plein de process déjà très structurés, un système d'infos au top. Et donc là, on va aller très vite. Soit sinon, on va commencer à travailler sur d'autres sujets avant de faire de la décarbo. Parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas de système d'infos, donc du coup, qu'on n'arrive pas à mesurer les poids des produits, donc on ne peut pas avoir nos indicateurs matière, etc. Donc, on enchaîne les sujets en fonction du diagnostic qu'on fait. Okay. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce que j'aime bien dans la décarbo, c'est que souvent, c'est 360 et on va régler d'autres, on va travailler sur d'autres sujets en fait, connexes. Et quand on sort, moi, ce que j'aime bien me dire, parce qu'on sert à ça aussi, on a toujours fait progresser l'entreprise sur quelques axes de ces process, en fait.
Donc, en fait, cette décarbonation va aussi inclure des frais supplémentaires. Quand tu disais, parfois, on se rend compte qu'il n'y a pas de quoi mesurer le poids, etc. Mmh. Donc, ça veut dire que l'entreprise doit investir pour mesurer.
Enfin, est-ce
que ce n'est pas un
forcément.
Double... Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
C'est une bonne chose que tu soulèves. Ce n'est pas forcément investir, c'est des fois mettre le process en place. Alors, ça
mais c'est payant. Enfin, voilà. Tu vois, il y a tout un process.
Il y a tout un coût humain.
Un recrutement ou un logiciel.
Ouais, alors,
avec maintenance, enfin, tout ça.
Des
quoi.
Fois, pas forcément.
Okay.
Typiquement, sur ce qui est le plus efficace pour les poids, c'est de greffer ça sur les ERP des entreprises et de se greffer sur le système d'info, pas faire un truc à côté. Mais oui, c'est du temps, systématiquement. C'est pour ça que ça ne marche que si on colle au process de l'entreprise et que si on a de la performance derrière. Parce que sinon, personne ne va vouloir passer du temps sur quelque chose qui n'apporte rien au fonctionnement quotidien. Après, moi, je le vois aussi d'une autre façon. C'est que aujourd'hui, si on ne fait pas ce mouvement d'accompagnement des entreprises pour qu'elles montent en gamme sur tous ces sujets, on va être dépassé. Déjà qu'on a des niveaux de maturité de PME qui sont globalement inférieurs en France à ce qui se passe dans d'autres... Voilà. Vieillissantes avec des niveaux de maturité inférieurs à ce qui se passe aux États-Unis et en Chine. Moi, je prends aussi la décarbo comme un moyen de monter la qualité et la maturité du tissu productif. C'est aussi l'objectif.
De créer de la valeur, en fin de compte,
Voilà.
c'est d'optimiser les process et de créer la valeur. Si l'entreprise aujourd'hui, elle n'a pas d'outils pour mesurer l'analyse de la valeur sur sa production du produit A ou du
C'est
produit
ça.
B, et du coup, comment tu peux construire tes tarifs derrière, comment tu
Exactement.
peux gérer tes stocks derrière et comment tu peux
Tout.
négocier avec tes clients, tout devient très compliqué. Et donc, c'est effectivement. Cette approche-là, oui, elle est essentielle pour faire grandir les entreprises. Sinon, notre tissu économique en France, c'est quand même la PME. Et on n'a pas forcément, on s'est laissé un peu vivre sur nos acquis. Mais rien n'est jamais permanent, sauf le changement. Ça y est, je l'ai sorti.
Vous avez une sorte de hic que vous sortez à tous les podcasts,
C'est ma citation fétiche. Et elle n'est pas du tout de moi. Alors je le sors, allez, je le sors. J'ai eu des jolis mots, décarbonation. Non, je ne dirais pas de qui c'est, mais c'est un philosophe grec
façon, les fidèles du podcast le savent.
Ok, donc on a coché la case citation. Quelle est la prochaine étape? Donc voilà, après, typiquement cet après-midi avec les masters, on écoutait un replay sur la CSRD avec Pascal Canfin, qui est le député européen qui coordonne le groupe Renew au niveau du Parlement. Et lui, il disait que la Chine y va. Typiquement, la Chine a acté dans la double matérialité.
Est-ce que tu peux me dire ce que c'est la
Ouais, c'est
double
ce que j'allais te dire,
matérialité?
ouais.
Parce que là, ça y est, Juliette, alors tu es
Elle est partie.
patiente à écouter.
Ça y est, je suis partie.
Juliette est partie, donc Renew, ouais, super.
Ok. Non, mais ce qui est important de dire, c'est que donc c'est un député européen du groupe centriste au Parlement européen qui milite pour la CSRD et qui est quand même très actif sur ces sujets-là. Et donc, ce qu'il disait, ce que j'ai appris cet après-midi, c'est que qu'est-ce que c'est la double matérialité? C'est de demander aux entreprises de faire une analyse de risque, qui ne soit pas qu'une analyse de risque financier, mais qui soit une double analyse de risques environnementaux et financiers. Ce sont des choses que nous, on travaille en stratégie bas carbone, qui est de se dire, j'arrête de faire mon analyse de risque uniquement sous le prisme marché et classique qu'on connaît, j'intègre dedans le risque de transition climatique systématiquement, et je regarde les risques que l'environnement fait peser sur mon entreprise et inversement, les risques que je fais peser sur l'environnement, parce que potentiellement ça, à un moment, ça va avoir des conséquences sur mon activité. Donc
Alors,
c'est ça.
j'ai peut-être une question un peu simplette, mais qu'est-ce qui se passe si il va bien y avoir des entreprises qui ne vont pas réussir à rentrer dans les critères? J'imagine qu'il y a pas un panel, mais je sais plus comment on dit.
Un objectif.
Ouais, avec des
Alors,
tranches.
des cibles.
Ouais, mais qu'est-ce qui va se passer pour
Alors
ceux
ça,
qui
c'est la
n'arrivent
question. Je te
pas
remercie parce que c'est la
à...
question que tous les clients me posent en ce moment, à
Bah, tu
laquelle
vois?
je n'ai pas de réponse
Ok, c'est encore
parce que
flou.
c'est trop tôt et que c'est encore flou
Bah
et
ouais.
qu'effectivement. Mais je comprends. J'ai même un certain nombre de clients qui des fois sont un peu paniqués ou en tout
Est-ce que
cas qui se
c'est...
demandent à quelle sauce ils vont être
Bah oui,
mangés.
parce que est-ce que
Ouais.
c'est possible pour tous les types d'entreprises ou pas?
Mais
De décarboner pour
on n'a pas les
rentrer
mêmes
dans les chiffres...
leviers. Oui. De mesurer, je pense que c'est
Ça
possible
oui, non,
pour
mais de
toutes les
répondre au
entreprises.
résultat qui sera attendu, en fait. Est-ce
Alors,
que c'est possible? Est-ce que ça sera possible? Bah du coup, on ne sait pas, puisqu'on n'a pas de chiffres.
déjà, pour l'instant, on a des trajectoires de référence, mais qui sont pas, on ne nous les impose pas. On nous dit, voilà, c'est
Mais
là où on
c'est
doit
établi
aller.
par qui, ça?
Les trajectoires de
Ouais.
référence, par le GIEC, par
Ok.
les experts du SBTI, de l'ADEME,
Ok.
c'est des
Oui, c'est plusieurs
ingénieurs.
experts. Ouais,
Voilà,
voilà. Ok.
qui nous donnent des trajectoires de référence. Mais la grosse question, moi j'aime bien avoir ces trajectoires, hein, mais effectivement la question c'est comment on les suit. Pour l'instant, on n'en sait rien. Et l'autre question que posent souvent les clients avec justesse, comme toi, c'est qu'est-ce qu'on attend de nous? Comment on va être évalué sur ça? Qu'est-ce qui va être normé? Aujourd'hui, c'est trop tôt, le marché n'est pas du tout prêt pour répondre à ces questions-là, ce qui génère beaucoup d'inquiétude de la part des acteurs économiques. Et je l'entends, parce qu'on ne sait pas ce qui va être fait des résultats qu'on produit nous dans les évaluations et dans les plans de transition. Mais objectivement, j'ai aucune réponse. Et l'autre question que tu avais, est-ce qu'on peut décarboner pour tout le monde? Franchement, d'une entreprise à l'autre, on va avoir des leviers très différents. Ça dépend de plusieurs choses. Est-ce que l'entreprise est très émissive sur la partie énergie? Ça, c'est le plus simple. Enfin, quelque part, c'est le plus simple. C'est le plus coûteux, mais c'est le plus simple. On a un levier qui est de travailler sur son outil de production. Le problème, c'est le montant des investissements dans une période où très clairement, plus
Voilà.
personne ne veut payer pour rien.
Bah non.
Donc, pas les clients, pas les marchés, les chefs d'entreprise sont sous, enfin, les entreprises sont souvent sous-capitalisées, il n'y a plus trop de subventions. Donc, comment on fait muter tout ça? Ça, c'est une vraie complexité. Et puis quand on a des ROI sur 5-6 ans, ça va. Si on a des ROI sur 10-15 ans ou 20 ans, c'est tout de suite plus compliqué, surtout avec la volatilité des marchés actuels. Donc c'est ça. Après, ce qui va aussi nous donner de la capacité à décarboner ou pas, c'est la place de l'entreprise dans sa chaîne de valeur. Si je suis client, que c'est moi qui fais le marché, ou si je suis sous-traitant et que je suis, ben, les leviers ne sont pas du tout les mêmes en fait. Donc je n'ai pas de réponse standard à ça.
Mais on est d'accord que c'est un process qui a pour objectif d'être mis à l'international aussi.
C'est un process qui a pour objectif d'être mis à l'international. Ça, j'en sais rien. Tu me poses une colle.
Ah, tu vois, c'est pareil.
Ouais, c'est, tu me poses une colle. Ce que j'ai appris cet après-midi typiquement, c'est que la Chine est en train d'y aller. Il y a des grosses batailles générales sur comment chaque territoire géographique se positionne sur le sujet, en fait, qui sont classiques
de l'être humain.
Ouais, et puis de toute situation stratégique, on va dire.
Oui.
Voilà, mais là, moi, je ne suis pas géopolitique et je me contente d'accompagner
les PME. C'est, bah, comme tu dis, c'est à la limite de la géopolitique, finalement.
Ce qui est à la limite de la géopolitique, c'est qu'est-ce qu'on décide. Non, mais je suis d'accord, c'est qu'est-ce qu'on décide de faire de notre tissu productif en Europe et où on veut l'emmener. Ça, c'est sûr. Ça, c'est... Après, ce n'est pas moi qui vais trancher sur ces questions-là et je n'ai pas de réponse à toutes ces questions-là. Déjà, je n'ai pas de réponse.
On fera un podcast dans 2-3 ans.
Ouais, peut-être qu'on y verra
plus tard. Pour demander mise à jour V2.
Alors, la décarbonation, moi aussi, je vois... là, on a vu un peu les contraintes et effectivement, on pilote un peu à vue. On n'a pas forcément une vision, sauf une échéance. Et on n'a pas d'objectif d'indicateur précis. Mais en même temps, ça peut développer aussi la créativité, l'innovation. Ça, c'est super important, moi, je trouve.
Non, mais je te trouve très positive et j'apprécie. Voilà,
mais
je dis.
À un moment donné, et Juliette le disait, elle a appris qu'effectivement, la Chine allait s'y mettre. Ouais. La Chine, ils vont mettre les moyens, ils vont aller 1000 fois plus vite que nous. Donc voilà. Alors après, ils ont un tissu industriel qui est un peu différent du nôtre. Mais nous, on a de la matière grise. Et on fait souvent preuve. Alors, on râle beaucoup.
Ça, c'est
ouais,
sûr.
Mais là, on ne va pas se mentir. Il nous faut des capacités d'investissement aussi.
C'est la guerre partout. Ouais. Tu vas aller demander des sous où
objectivement.
On est d'accord. Je ne veux pas être pessimiste. Hein.
Non, mais c'est pas parce qu'on va finir par trouver des solutions. Mais début 2025, il faut bien se dire aussi qu'à un moment donné, si on veut accompagner cette transition, il va falloir y mettre les moyens et que je ne sais pas. L'innovation, c'est sûr, on va aller chercher des gains de performance parce qu'on n'a pas le choix. Ça ne fera pas tout non plus, en fait. Au moment, voilà, les machines, il faut les changer, c'est comme ça. Parce
qu'il n'y
a pas le
budget,
choix.
Hein.
Voilà. J'ai appris que les machines hydrauliques étaient beaucoup plus consommatrices en énergie que les machines électriques. Ne me demandez pas de rentrer dans les détails, mais ça coûte cher, ces petits machins. Donc, il faut bien les changer. Voilà. Mais ceci dit, je te rejoins sur l'innovation. C'est ce que je disais aussi. Souvent, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi gagner des positionnements stratégiques, marketing un peu différenciant.
Parce qu'on est au pied
du
mur.
Parce qu'il ne faut pas oublier, donc effectivement, décarboner. Mais on va créer de la valeur si on traite la révision des chaînes d'approvisionnement. C'est ça que tu as dit tout à l'heure. On va gagner en rentabilité si... on devient plus efficace en termes d'énergie, etc. Mais à un moment donné, si on n'innove pas et on n'apporte pas quelque chose de nouveau ou avec un axe stratégique différenciant, voilà, c'est pour ça l'innovation, il faut y aller. Mais je crois qu'en France et en Europe, on a les moyens si on arrête un peu de râler et qu'on y va et qu'on est accompagné, je te rejoins. Oui,
j'allais dire, par contre, il faut un vrai accompagnement. C'est des sujets trop
laborieux. Il faut se dire que c'est du temps
laborieux.
Long. C'est du temps long aussi parce qu'il faut bouger. Pour que ça bouge, il faut bouger tous les paramètres.
Bien
le
sûr.
Légal, l'investissement, il faut bouger les façons de consommer. Et ça, ce n'est pas des choses qui se font en 2 ans en claquant des doigts. C'est du temps long de changement.
Mais quand même, par rapport à il y a 3, 4 ans, 5 ans, je trouve qu'il y a quand même une avancée dans la culture ou en tout cas dans la mentalité, parce qu'aujourd'hui tout le monde entend parler de décarbonation, on est sensibilisé, comme je le disais au début du podcast, quand on parle des achats qu'on fait, etc. Et c'est quand même bien aussi d'impliquer le particulier si on ne parle pas que d'entreprise. Et c'est ça aussi peut-être qui va permettre d'avancer plus ou moins plus vite, mais si tout le monde a conscience de la chose, bon, bah voilà, tout le monde ira dans la même direction.
Oui, et puis ce qui est intéressant, moi, ce que j'aime bien quand je fais des programmes de décarbo, en fait, c'est que les salariés qu'on touche dans ces programmes sont aussi des humains dans le quotidien, en fait.
Oui.
Et donc, du coup, des fois, il y avait une petite équipe que j'aimais beaucoup. avec qui on a pas mal avancé dans le projet. Et bah, après, je me souviens que...
Ah, vous l'avez fait à titre individuel, là ?
Non, une des responsables, après, m'a dit « Ah, mais du coup, quand on m'a parlé de l'empreinte carbone à l'école de mon fils, j'ai compris parce qu'on l'avait vu avec vous dans le cadre du projet. » Donc voilà, c'est intéressant aussi parce que les gens sont sensibilisés aussi à titre perso. En fait.
Et ça, c'est un aspect, alors, en plus... On est toutes les trois formatrices. Ouais. Donc, du coup, cette partie pédagogie, elle est essentielle et à tous les niveaux. Et je trouve qu'effectivement, des programmes de décarbonation, alors, c'est du temps, c'est de l'argent, clairement, mais c'est aussi quelque chose qui peut créer du lien dans l'entreprise. Et là, on va parler d'intelligence collective. Si on fait participer l'ensemble des collaborateurs, et je vous garantis, pour avoir testé ça sur une entreprise, alors c'était pas, c'était sur le programme REACH, qui a été imposé par l'Europe. Et du coup, moi, je ne savais pas trop comment le prendre. Et donc, on a fait des tables rondes en disant, ben voilà comment on peut s'y... Il y a eu des sacrées idées émergentes et ça crée une vraie dynamique et ça implique aussi un peu tout le monde.
Ah oui, moi, c'est vraiment ce que tu dis et ce qui est sympa dans le programme. Enfin, moi, je n'arrive jamais dans une entreprise en me disant j'ai la solution. Ce que j'aime bien, c'est ce que tu dis là. Les boîtes qui vont le plus loin, souvent, c'est quand on implique le max d'équipes terrain parce qu'il faut remonter plein d'innovations et du coup, ça structure une réflexion qui est hyper intéressante et où on a des solutions adaptées à l'entreprise. Je ne sais pas, avec nos idées préconçues un peu dogmatiques, quoi. Vraiment, ça part de l'innovation terrain. C'est la culture du lean qu'on a dans l'industrie, en fait. Hein. Et ça, c'est passionnant. C'est là où c'est les missions où je vais m'éclater le plus parce que voilà, il y a du nouveau et puis il y a cette espèce de dynamique collective qui crée le changement, en fait. Hein.
Le lean management. Ouais.
Non, mais par contre, ce qui va être un... Moi, je suis sur la réflexion du... En fait, finalement, tout ça, ça va être intéressant parce que les industriels, donc, vont devoir s'adapter. Ce qui veut dire qu'on va enfin peut-être voir des choses moins bizarres, mais quand on achète un produit et qu'il est dans un emballage et que lui-même est dans un emballage et que dans l'emballage, tu as un autre emballage, déjà, tu te dis qu'il y a un problème à la base. Donc, peut-être que ça améliorera aussi ce côté on en fait trop pour pas grand-chose, quoi. Je veux dire, si tout le monde doit jouer le jeu, donc les industriels aussi, effectivement, ça peut les obliger, entre guillemets, oui, mais à réfléchir,
les industriels,
notamment aux emballages, je pense ça, parce qu'ils font la pub en ce moment sur les emballages.
Ouais, les industriels, ils sont globalement volontaires en plus, hein, c'est pas la question, c'est que souvent, ils ont parfois l'impression d'être un peu démunis sur les leviers d'action et de manquer de financement, mais dans l'ensemble, ils sont volontaires parce qu'en plus...
ça crée la valeur.
Ça crée de la valeur.
Et ils maîtrisent leur process. Et donc, l'indépendance par rapport aux matières premières et l'indépendance au niveau... plus tu maîtrises ton outil de production, plus tu deviens libre, plus tu maîtrises tes coûts, plus tu pilotes correctement l'activité. Quoi.
Les dentifrices, pourquoi ils sont dans des cartons? Non, mais c'est ridicule.
J'ai pas de client dans le dentifrice.
Non, mais tu vois, mais quoi? Mais ça, c'est bien, ça va permettre d'arrêter de faire des cartons. C'est écrit la même chose que sur ton dentifrice.
Comme les pommes bio avec l'emballage plastique. Voilà. Ouais.
C'est vrai, non, mais c'est après, bien. On arrêtera d'aller vers des inepties comme celle-ci.
Si je peux me permettre, dans les bilans carbone, l'emballage est qu'une petite partie.
Il n'y a pas de... j'ai plus mes expressions ce soir, mais... il n'y a pas de petits gestes ou de petits pas.
C'est un test qu'on avait fait avec un fournisseur d'agroalimentaire, c'était intéressant. Ouais. Dans son bilan carbone à lui, le gros, c'est la matière première et une toute petite partie, c'est l'emballage. Le problème, c'est que des fois, quand tu switches sur l'emballage, tu anticipes la perte de matière première potentielle. Et donc, au final,
tube de dentifrice,
le tube de dentifrice, je suis d'accord.
Le truc, il est en plastique.
Mais achète du dentifrice solide, t'auras plus le problème.
J'ai essayé du dentifrice bio.
Mélissa, Juliette et moi, on est très proches. Juliette est plus jeune que moi, mais Mélissa, je vous redonne son âge, c'est pas un secret parce que si vous écoutez nos podcasts, on en parle souvent. Mélissa a 33 ans, j'ai 57 ans. Et on a notre nouvelle quinca bientôt, Juliette, qui va avoir 50 ans. Et la plus réfractaire et râleuse,
non.
C'est...
Je ne suis pas réfractaire.
Notre génération X.
Non, je suis Y, moi, en plus. C'est toi, X.
À chaque fois, je me trompe.
Bah, X, Y, Z. Plus vieux, X, Y, Z.
Excuse-nous.
Non, je ne suis pas réfractaire. Mais vous le savez, Oui, je râle parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, etc. Ça, je le dis ouvertement. Enfin, vous le savez très bien. C'est notamment aussi via cette marque que j'avais créée où je me suis rendu compte, parce que moi, j'étais convaincue, corps et âme, oui, il faut arrêter ça, il faut consommer comme ça, c'est n'importe quoi. Enfin, bref, voilà. Un peu comme vous. Et en fait, je me suis rendu compte que déjà, les gens ne sont absolument pas prêts, les consommateurs. Pas
Mais
forcément les hommes.
pourquoi? Tu le sais pourquoi?
Parce que c'est une question d'argent, parce
Mais
qu'on est trop
carrément.
capitaliste aussi, d'une part. Je pense qu'il y a de la part des entreprises, je parle pas forcément de ceux en France pour le coup, enfin, notamment via les vêtements qu'on disait tout à l'heure.
Moi, je stigmatiserais ni les entreprises ni les consommateurs. Enfin, on peut pas. Voilà, je
Mais c'est
pense.
un cercle vicieux, tout le monde blablabla, mais en fait, le but c'est d'avoir de l'argent, le but c'est de consommer parce qu'on a été élevé dans la surconsommation, etc. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce modèle n'est plus possible. C'est une réalité, on le sait. Enfin,
Tel quel, non, ça ne fonctionnera
mais
pas sur le long terme.
voilà, ça ne fonctionnera pas. Mais du coup, il faut que tout le monde joue au jeu. Je veux dire, à un moment, il faut arrêter
Mais
de
nos
crier.
modèles économiques, ils sont basés depuis.
Mais oui,
Ils
mais
sont
c'est pour ça
basés sur la
qu'on.
consommation.
Bah oui, mais il
C'est
y a un
pas.
problème. Pour moi, tu peux pas réduire ton empreinte carbone et faire descendre les degrés qu'on est en train d'ajouter, non pas liés au réchauffement climatique naturel, mais liés à notre production, à notre consommation, et dire, mais attendez, on continue de consommer, mais on va essayer. Bah non, en fait, c'est à un moment, faut rétrograder, il faut peut-être plus être autant capitaliste. De toute
Bah,
façon, ça sert à quoi en vrai?
en
Oui,
tout cas,
mais
oui, il
en
faudra
même
baisser
temps,
un peu le niveau de conso. Après, ce qu'on ne sait pas,
mais
c'est
ça,
dans quel.
comment?
On sait.
On n'est pas seul au monde.
Ben non, je parle de
Donc,
tout le monde. C'est
voilà.
tout le monde. C'est pas que l'Europe ou la Chine. C'est tout le monde, en fait. Enfin, l'être humain, il court en majorité. Enfin, on a tous été élevés dans le capitalisme. Et du coup, dis aux gens, bah, tu produis moins, mais tu gagnes moins et tu consommes moins. Ben non, c'est pas comme ça que fonctionne l'être humain.
Après, c'est
On
un
veut
autre
toujours
sujet.
plus. Non, mais on veut toujours
Je
plus.
dirais que c'est un autre sujet, plus philosophique.
Oui,
Après,
c'est
un
vrai.
système
J'ai
économique
fait beaucoup de.
qui tient autre que le capitalisme, perso, j'en connais pas. Qu'on régule le capitalisme, oui, ça,
Voilà.
ok, mais jusqu'à présent, celui qui est le plus. Et qu'on régule la
Ouais.
conso, et qu'en tout cas, effectivement, on se dise à un moment, surconsommer, c'est peut-être pas l'objectif d'une vie. Ça me
Mais
semble
ça,
un
c'est
point de vue
sûr.
philosophique assez tenable. Mais tout ça va prendre du temps, parce que.
Bah.
C'est quand même, c'est du temps, c'est ce qu'on disait sur les usages, les façons de percevoir la vie. Voilà, pour moi, c'est un mouvement long. Je pense que 2050, c'est un
Non,
horizon
mais
qui
moi,
est tout juste tenable, en
quand
fait.
je lis tous les commentaires sur les réseaux et tout, sur n'importe quel sujet, voilà, qui permet l'avancée ou quoi, je me dis, mais on rétrograde, mais à une vitesse.
Mais à un moment donné, Mélissa, on a deux options. Soit dire, ah non, ben, c'est pas bien, hein, machin. Soit on met en place des dispositifs qui vont être longs, dont on ne maîtrise pas forcément l'aboutissement, mais au moins on va essayer. On ne reste pas
Ah,
statique.
bien sûr.
Donc il n'y a pas de solution certainement miracle.
Non, ça y
Moi,
viendra. Ça y viendra.
je pense que déjà, chaque personne, chaque entreprise a son propre ADN. Et en même temps, les pouvoirs publics doivent effectivement essayer de converger sur des objectifs communs. Et oui, on a le droit de râler, on a le droit de ne pas être d'accord, mais surtout, là où
Mais c'est pas
moi
que je suis pas d'accord.
j'ai du mal, c'est que si on reste statique et on dit non,
Non,
non à
je ne suis
quoi?
pas, j'ai pas dit que j'étais pas d'accord. Le GIEC, j'en parlais enfin, en 2018, quand j'ai lancé la marque, j'en parlais. Et quand je disais, bah, en 2030, parce qu'il disait déjà ces chiffres, à l'époque, on me regardait en mode, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Enfin, on va jamais, tuer notre propre planète. Tu vois, c'était un peu ça, il y a 5, 6 ans en arrière. Et aujourd'hui, les gens commencent à capter. Mais, j'ai pas dit que j'étais contre. Je dis juste que notre système, et le tempérament de l'être humain, le fonctionnement de l'être humain ne va pas dans le sens
Oui,
d'une
bah
meilleure consommation et de regarder l'événement.
c'est de
Mais regarde
l'éducation,
tous les gens qui
hein.
tuent tous les animaux et tout. Enfin, je veux dire, non, mais c'est
Alors là, on fait un
vrai,
podcast
cette
consommation.
génération, oui,
Non,
non, mais
mais
j'entends, je
même
suis.
en France, là, tous les dauphins qu'on tue et tout, mais à quoi
Ouais,
ça
mais je
sert? Non,
regarde
mais à quoi ça
aussi
sert?
qu'on a sauvé plein d'espèces animales, qu'on met en place des choses.
Ouais,
Mais
on
oui,
est
mais.
violent. Non, mais c'est
La
vrai.
génération
La génération des trentenaires est désabusée.
elle désabusée, la
J'entends
gé.
ça, on entend ça aussi, toi,
Mais la
Sandrine.
génération.
Ouais.
Alors,
Non, mais vous avez
effectivement.
raison, nos futurs. Non, je plaisante.
Non, non, mais j'ai pas dit qu'on était
On
contre.
croit plus à
Non.
l'avenir, nous.
Mais non, mais on est
Mais on va mourir
réaliste.
avant toi, en plus.
Bah, je
Hein.
sais, mais nous, on va mourir.
Ça.
Mais moi, bah, malheureusement, je l'espère. Enfin, sinon,
Moi aussi,
vous
je te le
viendrez à mon
souhaite.
enterrement, sinon,
Je te le
quand même,
souhaite, je te le
j'espère.
souhaite.
Non, non, mais Mais nous, on a conscience, enfin, je ne vais pas dire de façon crue, mais on a conscience qu'on va mourir salement. On le sait. Salement, c'est-à-dire dans des conditions écologiques, dans des un climat, dans des conditions
Oui,
de vie.
c'est ça
C'est
que...
fini, en fait, ce qu'on a connu. Non, mais vraiment.
C'est ce que j'entends dans votre discours. Ouais, c'est vrai que c'est un
Oui,
peu
on en a
flippant pour nous
conscience.
d'entendre ça de la
Bah,
part
c'est
de
fini.
générations plus jeunes. Tu vois, je me dis quelque part, on a failli dans notre devoir de
Non, mais
transmission. Non,
c'est
mais si,
pas...
aussi même de vision positive de
C'est pas de
l'avenir.
votre
Alors,
faute.
si
Non,
vous,
mais...
je sais
Voilà. Non,
bien,
non, mais ça,
je
c'est
sais
une
bien.
discussion. C'est une discussion qu'on a eue avec Mélissa sur un précédent
Un podcast? Ah
podcast.
oui.
Donc, on a dû faire plein de coupes,
Oui. Ouais.
certainement.
Non, oui.
Parce qu'à un moment donné, effectivement, vous pouvez nous rendre responsables de beaucoup de choses.
J'ai pas dit que c'était de votre faute, hein.
Sauf que,
Non, mais moi, je l'ai pas entendu comme ça.
Ah ouais. Non, non,
Ouais.
mais vous pouvez, là, cette génération, en disant, vous n'avez rien fait pour nous. Nous, on a fait avec ce qu'on
Ouais,
avait.
bien sûr.
Et à un moment
Mais
donné,
c'est
on
normal,
n'avait peut-être
c'était
pas
pas les
cet
sujets.
accès. Y avait, voilà, il n'y avait
Donc
pas
c'est
tout
normal.
ça. Donc, on va arrêter de se
Oh.
flageller. Et c'est pas pour ça qu'on n'est pas conscient qu'on n'a pas fait les choses comme il faut. Et
Mais moi,
c'est
c'est pas ce
peut-être pour
que
ça qu'on
je
a plus d'espérance dans tous ces
Non, non, moi,
dispositifs
j'ai pas
type
entendu ça, non, ouais.
décarbonation. Mais
C'est pas
c'est...
ce que je dis. Je dis que, enfin, de toute façon, ce n'était pas des sujets à
Non,
votre
c'était pas des
époque.
sujets. Non, c'est
Donc, forcément, certaines personnes y ont pensé, c'est normal, mais la
Non,
majorité n'y pensait pas, donc
moi
tu peux pas. je l'ai pas entendu comme le fait qu'on en était coupable Non.
de la.
De toute
Par
façon, c'est une contre, ce que succession de
de
tout,
toi,
c'est pas à
par
vous,
contre, ce que
enfin.
j'entends et je le prends pas non plus à ma charge, ce que j'entends et ce que je vois dans un certain nombre de gens de ta génération ou
Ouais.
des enfants qui sont encore un peu plus jeunes,
Ouais.
ce que je vois, c'est qu'effectivement il y a une sorte de côté désabusé qui forcément nous alerte en tant que vieux ou quinca et futur quinca, parce que
Parents?
ou parents, parce qu'on
Ouais.
se dit ah bah quand même, ce qui fait vibrer aussi, c'est la croyance en l'avenir, donc. Voilà, comme c'est plutôt ça, que ça m'alerte plutôt d'un point de vue
Ouais.
humain que d'un point de vue culpabilisant, en
Ah
fait.
oui, non,
C'est
oui,
plutôt ça que je
clairement.
voulais dire.
Ah bah oui.
Mais Juliette, elle te reformule ça en 2-2. Incroyable.
Il paraît que c'est mon métier de reformuler. Je suis payée Bah
pour ça.
voilà. Non, mais c'est ça. Et en fait, c'est ça qui est triste. C'est que malheureusement, pour X ou Y raison, on s'est rendu compte des choses trop tard et plusieurs générations vont le payer. Et ce que ça donnera, j'en sais rien. Je suis pas devin, mais.
Et c'est pour ça que du coup, il faut parler de
Ouais.
décarbonation. Donc, messieurs les
Mais partout dans le monde.
industriels,
Oui, bah j'insiste, hein.
ouais,
Oui.
j'en ai
Oui,
entendu.
Mélissa.
Après, tu sais,
Mais tu vois, moi aussi.
moi
Bah oui,
j'agis là où je pense que j'ai un
mais
pouvoir
c'est déjà
d'action
bien d'agir, mais
et
il
à
faut que ce
l'échelle
soit.
locale. Le reste, je ne maîtrise pas.
Non, mais il faut que ce soit un débat qui soit international,
Et
pas.
d'ailleurs, le changement, ça commence
Maintenant!
maintenant, et donc du coup, si on commence pas sur notre territoire, allons pas
Exactement.
chercher ailleurs, commençons
Oui, il
là,
faut que ce soit
devant
un
notre
ensemble,
porte.
comme à la base l'accord de Paris. C'était un ensemble de pays, à part trois pays maintenant. Mais c'était un ensemble. Voilà, ça c'était intelligent. Non mais quoi?
Donc Juliette, la décarbonation, c'est pas si compliqué que ça.
Non, en fait.
Et donc si on se pose des questions, on tape Juliette Poupard
Voilà.
et on te trouve.
Oui, sur LinkedIn. Avec le groupe PSB qui est rattaché à notre centre de formation Formaflow à Dreux, dans ce magnifique endroit qui est la radiotechnique, ce site post-industriel réhabilité.
Exactement. Comme quoi tout est possible.
Comme quoi tout est
Bien
possible.
évidemment. Donc Juliette, mille merci. On te retrouve sur les réseaux. Juliette Poupard, groupe PSB. C'est un groupe qui est rattaché au CFA de
Formaflow.
Formaflow, au Parc de la Radio. Et
À
donc
Dreux.
à juste titre. Tu as dit que c'était un complexe post-industriel qui est en train de complètement renaître.
Ça, c'est bien. En plus, il végétalisait
Elle
tout.
râle plus.
Ben non, c'est
On
normal.
a canalisé
On va
l'énergie,
rester
on va dire. sur cette
Non,
chose
parce que.
très
Ben attends, je
positive.
vais redire quelque chose de positif. Donc, je pense que c'est un sujet enfin, sur lequel il faut vraiment travailler et il faut démocratiser cette notion. Alors, je serai d'avis, dis-moi si tu es OK, pour que justement, en avril, on fasse un débat, un café-débat, un verre-débat sur ce sujet-là.
Oui, et avec la génération Z, pour voir
Tout le
s'ils ont
monde.
un
Ah,
peu
très
plus
bonne idée.
d'espoir en
Justement, s'ils
l'avenir
sont.
que la
Ouais.
génération.
Alors là, je ne suis pas sûre. Mais je ne veux pas être sceptique. Je
Non,
pense
mais
que
c'est
c'est pire.
intéressant,
Ouais.
intéressant. Et alors moi, peut-être que ça fera l'objet d'un podcast, parce qu'à chaque fois qu'on finit nos podcasts, on reste un peu
Sur
sur
notre
notre
fin,
faim,
ouais.
d'avoir le retour d'expérience.
d'une entreprise que tu as accompagnée et vraiment mettre, alors, de mon côté, que les choses positives.
Non, non, mais même
Mais je suis pas une autruche non plus, hein.
D'entendre les freins et tout,
et les freins,
et justement ce sur quoi les chefs d'entreprise ont l'impression de buter, je pense qu'il faut l'entendre.
Oui, il faut le dire.
Il faut
ah
le
oui.
dire, ouais.
C'est un essentiel.
Le positif, et le négatif.
Ou les axes d'amélioration.
Ouais.
Ouais. Ouais, c'était un super donc, moment comme d'hab.
Oui,
ouais,
donc
merci mesdames.
Bah,
merci, chouette,
merci
comme
à
toujours.
Toi. Ouais. Donc effectivement, le café débat, enfin le verre débat, j'avais eu un autre nom, bon bref, qu'on organisera parce que je pense que c'est important de démocratiser ces notions. On est toujours sur de la pédagogie. Et puis en attendant, on peut nous retrouver sur nos réseaux Instagram, le podcast. On a des choses à se dire. Et puis voilà.
Ouais.
Et puis écoutez tous les autres qui sont déjà en ligne.
Et que je recommande, qui sont très intéressants. Ouais.
Juliette, mille merci.
Mille merci ouais, Sandrine, moi, mille merci Mélissa.
J'ai presque tout compris.
Mais oui, t'as tout compris. Bon, bah, à bientôt. Bah oui.
Belle soirée.
Oui, à
belle
bientôt.
Soirée. À bientôt.